Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers, arrêté en Jordanie, puis relâché sous caution. La justice française réclame son extradition 32 ans après le drame. Les explications de Florence Thiom dans un instant. Mini remaniement aujourd'hui. Deux femmes, Clotilde Walter et Martine Pinville, entrent au gouvernement pour appliquer sans sourciller la ligne politique de François Hollande. Thierry Mandon, lui, devient secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il est l'invité de ce journal. Le gouvernement qui annonce la création de 10 500 places d'hébergement supplémentaires pour les migrants de la Méditerranée. Nous verrons cela avec Aurélie Kiffer. Les responsables de l'attentat de la rue des Rosiers il y a 32 ans à Paris vont-ils finir devant un tribunal en France? En tout cas, l'étau se resserre pour certains d'entre eux. Le cerveau présumé de l'attentat, le Palestinien Al-Abbasi, vient d'être interpellé en Jordanie à la demande du juge français Marc Trévidic. Il est soupçonné d'avoir fomenté l'attaque du restaurant juif Joe Goldenberg le 9 août 1982, attaque qui avait fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Florence Thiom, dans cette affaire, la justice française n'a jamais abandonné la traque des terroristes.
Le juge antiterroriste Marc Trévidic avait récupéré en 2007 le dossier ouvert par son prédécesseur Jean-Louis Bruguière au lendemain de l'attentat et repris une enquête qui piétinait depuis des années. Avec l'aide des services de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il va recueillir le témoignage de deux anciens militants du Fatah Conseil Révolutionnaire, le groupe d'Abou Nidal, longtemps suspecté de l'attentat mais qui ne l'a jamais revendiqué. Ces deux militants vont accepter de déposer sous X une procédure qui leur garantit l'anonymat. Et ils vont désigner trois hommes, dont Mohamed Souher Al-Abbasi, présenté comme le commanditaire, le cerveau de l'attentat. On savait qu'il vivait en Jordanie. Son interpellation remonte au 1er juin. Depuis, il a été présenté à un tribunal d'Amman et libéré sous caution, avec toutefois interdiction de quitter le territoire. La procédure d'extradition est désormais en cours. Une avancée majeure, saluée par les familles des victimes, qui déplorent toutefois l'inaction des autres États où résident les deux autres suspects identifiés, membres présumés du commando et également visés par un mandat d'arrêt international. L'un vit à Ramallah, en Cisjordanie, le second à Oslo, où il aurait acquis la nationalité norvégienne.
Florence Thiom, mais selon l'Association française des victimes du terrorisme, la Norvège n'aurait toujours pas répondu à la demande adressée par la justice française. Pour l'Élysée, il s'agit d'un ajustement technique. Appelons cela un mini remaniement. François Hollande a nommé aujourd'hui trois nouveaux secrétaires d'État. Thierry Mandon quitte la réforme de l'État pour s'occuper de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il sera notre invité dans quelques instants. Mais on va s'intéresser d'abord aux deux nouvelles secrétaires d'État. Clotilde Walter récupère la réforme de l'État et Martine Pinville sera en charge du commerce et de l'artisanat à la place de Carole Delga qui est tête de liste aux prochaines élections régionales. Deux femmes, donc, qui soutiennent sans état d'âme la politique de François Hollande, Louise Baudet.
Ni frondeuse, ni aubriste, encore moins écologiste, ce sont deux Hollandaises pur jus qui entrent au gouvernement. Martine Pinville est députée de la Charente, Clotilde Walter du Calvados. La première est un soutien historique du chef de l'État quand il n'était encore que Monsieur 3%. La seconde est énarque, proche de Lionel Jospin, membre de son cabinet à Matignon à la fin des années 90, où elle a croisé Manuel Valls, fidèle donc du Premier ministre et du Président. Le recrutement comme secrétaire d'État de ces deux parlementaires légitimistes vient renforcer la cohérence de l'équipe gouvernementale, expurgée de ses éléments les plus turbulents à la fin de l'été dernier. Ça n'est donc pas un signe d'ouverture aux autres sensibilités de la majorité. Pour cela, il faudra attendre, sans doute, la fin de l'année. Un remaniement de plus grande envergure est en effet envisagé après les élections régionales, avec l'entrée possible d'écologistes. Ce vrai remaniement est toujours possible, a confirmé hier soir Manuel Valls. Il faut qu'on engage un processus de rassemblement, complète le porte-parole du gouvernement et fidèle hollandais Stéphane Le Foll. Rassemblement de la gauche, en vue bien sûr de la présidence de 2017.
Louise Baudet, merci. On en vient maintenant à la troisième nomination, celle de Thierry Mandon à l'enseignement supérieur et à la recherche où il remplace Geneviève Fioraso qui avait quitté le gouvernement en mars dernier pour raison de santé. Thierry Mandon est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous quittez la réforme de l'État pour l'enseignement supérieur. Est-ce que vous vivez ce changement comme une promotion ?
Non, je le vis comme une nouvelle responsabilité et un nouveau défi. Je ne sais pas si c'est une promotion, d'ailleurs c'est pas ce que je cherchais, mais c'est une aventure, une tâche exaltante qui est devant nous.
Alain Claës, le député maire de Poitiers, dit qu'il a refusé le poste parce qu'il voulait un ministère de plein exercice. Ce n'est pas le cas, est-ce que vous le regrettez ?
Moi, je crois que les principaux enjeux sur ce secteur, c'est des enjeux budgétaires, d'abord. C'est ce qui me préoccupe. Et quant à la nature des titres, au rang protocolaire, tout ça m'indiffère. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de ce ministère et pas tant sa place dans le protocole.
Les enjeux budgétaires, vous avez des garanties, justement, quant à votre budget ?
Garanties politiques, oui. Dans un pays qui est obsédé par le passé, qui se préoccupe... difficultés économiques et sociales obligent sans arrêt du présent. Les dépenses prioritaires doivent préparer l'avenir. La priorité budgétaire qui doit être donnée à ce secteur-là, l'enseignement supérieur et la recherche, ça a été une des discussions que j'ai eues avec ceux qui ont bien voulu me faire la confiance de me désigner à ce poste.
Mais concrètement, votre budget est maintenu, augmenté ou il est réduit ?
Réduit, j'imagine pas que ce soit possible. C'est pas souhaitable et me semble-t-il, en tout cas à partir du budget 2016, on peut pas imaginer que le secteur universitaire et la recherche disposent de moins de moyens qu'ils n'en avaient en 2015. C'est pas imaginable.
Plus de moyens peut-être ?
Si c'est pas moins, j'espère que ce sera plus, mais on va faire les discussions budgétaires en leur temps. En tout cas, la question des moyens est une des questions importantes de ce secteur. C'est pas la seule.
Thierry Mandon, justement, quels seront vos chantiers prioritaires ?
Écoutez, j'en mettrai quatre. D'abord, il faut partir de la vie quotidienne des étudiants, la vie quotidienne des chercheurs. Ce monde universitaire, ce monde de la recherche, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui exercent leur activité pour les chercheurs ou qui apprennent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Il y a plein de problématiques qui nécessitent, avec un peu d'innovation, un peu d'intelligence, et en consolidant ce qu'a pu faire Geneviève Forazzo, on peut améliorer grandement la vie quotidienne des uns et des autres. Deuxième sujet, c'est la question du rapport entre ce monde universitaire, ce monde de la recherche et la société. Les chercheurs, les universitaires et les étudiants ne sont pas considérés par la société à hauteur de ce qu'ils méritent, de ce qu'ils représentent pour l'avenir du pays. Il y a la question de la considération, la question de la reconnaissance sont des enjeux centraux, et donc ce sera ma deuxième priorité. La troisième priorité, c'est de simplifier, de permettre aux étudiants et aux chercheurs de se concentrer sur ce pourquoi ils se sont engagés. Ils sont pas là pour faire des dossiers administratifs, passer du temps à des démarches absolument surréalistes entre les agences, les administrations centrales. Enfin, tout ça manque un peu d'autonomie et de souplesse, de simplicité. Et là, on a des techniques qui nous permettent de le faire. Et puis enfin, la quatrième priorité, c'est il faut des actes rapides sur un certain nombre de sujets brûlants. Je pense à la situation des jeunes chercheurs, des doctorants. La France forme des gens qui ont des compétences magnifiques et elle leur propose pas de travail. Il y a des solutions rapides, possibles, notamment dans l'ouverture de la haute fonction publique. C'est un chantier auquel je crois beaucoup, à la fois la nécessité de diversifier la haute fonction publique et d'offrir à des enseignants, des jeunes chercheurs doctorants, des postes, notamment dans la haute fonction publique.
Dans votre politique, est-ce que vous établissez une hiérarchie entre les universités et les grandes écoles en termes de priorité ?
Non. Non, je crois que l'effort est d'abord à faire sur le monde universitaire, qui a un potentiel extraordinaire, qui n'est pas considéré en France comme il le convient. Les grandes écoles, par définition, d'ailleurs, on les appelle grandes. Donc, elles sont considérées, elles sont même très bien considérées, mais les universités, c'est à la fois un projet social, un projet d'excellence, un projet de qualité. Et je pense que les universités méritent vraiment d'être soutenues puissamment.
Est-ce qu'il y a aussi un programme d'investissement en matière de nouveaux locaux pour les universités? Parce qu'on sait qu'il y a de gros problèmes un peu partout en France.
C'est un peu tôt pour répondre sérieusement à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que la question de la qualité est une question qui doit être la ligne de force de l'ensemble de l'action. La qualité des conditions d'accueil des étudiants, la qualité des enseignements, la qualité comme projet individuel pour chaque étudiant, mais aussi la qualité comme projet fédérateur, comme boussole pour le collectif. Et donc, la modernisation, l'adaptation des équipements, les nouvelles technologies au service de modes d'enseignement innovants, tout ça fait évidemment partie des chantiers essentiels.
Thierry Mandon, nouveau secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Fermeté et humanité, le gouvernement essaye de trouver le bon équilibre face à la question migratoire. Fermeté avec le refoulement des migrants africains qui cherchent à franchir la frontière française à Vintimille. Humanité avec la création de 10 500 places d'hébergement supplémentaires d'ici 2 ans. Un plan présenté aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et sa collègue du logement Sylvia Pinel. Voilà pour l'ambition affichée. Reste à savoir, Aurélie Kiffer, si ce plan est réaliste.
Eh bien, Sylvia Pinel assure qu'un repérage est en cours pour trouver de l'hébergement d'urgence. Il y aurait des terrains publics, des propriétés de l'État mobilisables, de même que des centres qui jusque-là n'ouvraient que l'hiver. 1500 places seraient donc disponibles d'ici la fin de l'année et même pour la plupart d'ici 3 mois. Les réfugiés ne doivent pas stagner dans des centres ou dans l'hébergement d'urgence généraliste. Il faut les inscrire dans une vraie démarche d'insertion, explique le ministère, qui promet la création de 5000 places en logement accompagné d'ici 2 ans. Et pour cela, 3 pistes sont explorées, des résidences sociales, des logements privés loués par l'intermédiaire d'associations et surtout des logements vacants du parc social dans des zones détendues, bien loin de l'Île-de-France donc où affluent les migrants. Pour libérer des places, Sylvia Pinel et Bernard Cazeneuve comptent aussi sur la nouvelle dynamique qu'ils veulent insuffler. Les migrants ne seront pas seulement mis à l'abri, ils seront suivis et vite orientés vers un hébergement correspondant à leur statut. Le traitement des demandes d'asile doit aussi être accéléré, d'où l'annonce de nouveaux recrutements à l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés, et à l'OFI, Office français de l'immigration. Réduire d'un mois les délais des demandes, c'est 15 millions d'économies pour l'État, estime-t-on, place Beauvau. Quant aux étrangers aux situations irrégulières, ils ne doivent pas rester en France. Bernard Cazeneuve promet la fermeté à leur égard.
Aurélie Kiffer, merci. À Calais, l'afflux de migrants pose de sérieux problèmes de sécurité. Plusieurs centaines de clandestins africains ont tenté aujourd'hui de monter dans les poids lourds en partance pour l'Angleterre. Ils étaient parfois une vingtaine pour un seul camion. Les CRS se débordaient dans un premier temps ont pu rétablir l'ordre avec l'arrivée de renforts. Un policier a été blessé. Il y a aujourd'hui à Calais 3000 migrants qui cherchent à passer en Angleterre. En Hongrie, le gouvernement conservateur de Viktor Orban a décidé d'employer les grands moyens pour empêcher l'afflux de migrants sur son territoire. Budapest va fermer sa frontière avec la Serbie en érigeant une barrière de 175 km de long. La Hongrie ne peut plus attendre, elle doit agir, se justifie le gouvernement Orban qui dénonce l'impuissance de l'Union européenne dans ce dossier. L'immigration qui est aussi au centre de la campagne électorale qui s'achève ce soir au Danemark. On vote demain dans le Royaume scandinave. Scrutin législatif totalement indécis. Dans les derniers sondages, les sociaux-démocrates au pouvoir sont au coude à coude avec la droite. Une droite renforcée par les populistes du Parti populaire danois. Une formation ouvertement hostile à l'immigration qui pourrait approcher les 20%. L'analyse de Gertrude Oyelund, journaliste à Radio 24, la radio nationale danoise.
Les propos de la droite populiste, c'est-à-dire cette crainte à propos des immigrés, des demandeurs d'asile, ça a vraiment eu beaucoup d'influence sur les autres grands partis, c'est-à-dire sur la partie des démocrates sociaux, sur la partie libérale. Donc en fait, vous avez 3 grands partis qui se battent un petit peu sur tout ce qui est sujet de réfugiés et d'immigration et de demandeurs d'asile. Ces 3 partis cherchent à être le plus dur sur ce thème-là, même la gauche, parce que pendant 15 ans, c'est surtout en fait les démocrates sociaux qui ont perdu beaucoup d'électorat envers Dansk Folkeparti, l'extrême droite. Ce sont un parti de travailleurs. Il y a une crainte chez la population avec la moins d'éducation, par exemple, qui se sent menacée par l'immigration. Surtout les démocrates sociaux ont pris ces propos de l'extrême droite. Ce printemps, le Premier ministre Helle Thorning-Schmidt, elle a fait des affiches dans tout le pays où c'était marqué « Si vous venez au Danemark, il faut travailler ». Donc ça, c'est vraiment un thème où toutes les parties, ils cherchent à convaincre une partie de la population qu'eux, ils sont les plus fermes, les plus répressives au niveau de l'intégration et au niveau des demandeurs d'asile. Comme quoi, il ne faut pas venir ici si vous n'allez pas travailler.
La journaliste danoise Gertrude Oyelund, elle répondait à Fiona Mogadam. C'est une polémique dont Ségolène Royal a le secret. La ministre de l'Environnement a présenté aujourd'hui ses excuses pour avoir dénigré le Nutella. Lundi soir sur Canal+, elle avait expliqué qu'il fallait arrêter de consommer la célèbre pâte à tartiner à cause de l'huile de palme qu'elle contient et la production d'huile de palme contribue à la déforestation. Propos aussitôt dénoncé en Italie, la patrie du Nutella. Et face face à la colère de la classe politique italienne. Ségolène Royal a préféré s'excuser dans un tweet. La météo demain, nuages au nord de la Loire avec quelques pluies de la Bretagne à l'Île-de-France. Cette petite perturbation devrait s'évacuer en soirée par l'est sur le reste du pays. Le beau temps devrait s'imposer. Les températures maximales, 19 à Lille, 22 à Paris, 27 à Toulouse et jusqu'à 33 degrés du côté du Languedoc. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.